Bonjour, eh bien, vous êtes dans l'émission Les mots de la foi et nous nous retrouvons avec Elisabeth pour cette question de l'homme à partir du livre de Bernard Sesbué, L'homme merveille de Dieu. Dans nos émissions précédentes, on avait évoqué comment, au cours des âges, s'est structurée une réflexion chrétienne sur l'homme. Mais c'est évident que nos contemporains sont totalement étrangers à cette vision de l'homme qui l'oriente vers Dieu. Et il faut s'interroger sur les aspects de l'athéisme contemporain. Tout d'abord, sur quoi se base cet athéisme? Puisque l'homme moderne n'a pas besoin de Dieu, conquiert l'espace. Oui. Donc on a là des tas de raisons qui font que la question de Dieu a été balayée par certains de nos contemporains. Et c'est à entendre.
Oui, alors derrière l'athéisme, nous dit Bernard Sesbué, il y a un schéma déjà de rivalité entre l'homme et Dieu. L'homme veut tout devoir à lui-même. Ce thème de la mort de Dieu a été très présent et est très présent dans la réflexion contemporaine.
Alors, sauf que il n'y a plus Dieu, mais nos contemporains ont érigé un certain nombre de choses en Dieu.
Oui, alors c'est les idoles modernes, l'argent, le sexe, la drogue, mais qui ne peuvent pas combler complètement l'homme.
On peut aussi observer que cet athéisme, là où il a été érigé en système social et comme cadre de référence pour la vie sociale, n'a pas forcément été une réussite, puisqu'on a tout de même connu l'athéisme idéologique, politique et totalitaire d'un certain nombre de réalisations qui n'ont pas été le meilleur des mondes, le nazisme, le communisme. Et puis, on peut voir aussi que cet homme contemporain qui questionne l'univers, mais il le fait par le langage, plus il creuse, il n'aboutit jamais à la fin.
Oui, parce que la question du sens demeure, la question du sens de la vie, du sens de l'existence demeure toujours. Et il semble bien que le désir de Dieu, qu'on le reconnaisse ou non, soit toujours présent.
C'est-à-dire que ce que nous appelons désir de Dieu, c'est peut-être la quête du sens. Et de ce fait, il y a pourtant des personnes qui, athées, ont un sens de l'homme. C'est ce que Bernard Sesbué appelle les athées vertueux, en disant « c'est très difficile d'être un athée vertueux dans un monde corrompu ».
Oui, parce que, et ça c'est une réflexion qui est déjà un petit peu ancienne, mais on se rend compte que beaucoup de ces athées vertueux, entre guillemets, sont marqués par une morale. Morale d'origine chrétienne, même s'ils refusent de le reconnaître, qui est devenue la morale naturelle, la morale commune.
Oui, c'est-à-dire qu'ils se posent de toute façon toujours les questions fondamentales. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Les questions de Kant. L'homme responsable et libre se pose quand même toujours ces questions, et même s'il y a des progrès scientifiques spectaculaires, si la technique nous amène à aller de plus en plus loin, les questions demeurent. Et justement, ces questions scientifiques et cette science, c'est bien à partir d'elles qu'au XVIe siècle a commencé à se poser la question de l'athéisme.
Oui, c'est à partir
l'affaire de Galilée.
Oui, parce que c'est à partir de ces questions sur et ces découvertes du XVIe siècle, XVIe et XVIIe siècle, sur le fait, par exemple, que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, qui a été contestée au nom d'une confusion entre récits de la création et ce qui n'était pas encore un discours scientifique.
De ce point de vue, je trouve que la citation du cardinal Bellarmine est tout à fait intéressante. On peut peut-être la proposer à nos auditeurs.
Oui, alors c'est au début du XVIIe siècle. Voici ce qu'il dit. « S'il y avait une vraie démonstration que le soleil se tient au centre du monde et la terre dans le troisième ciel, et que le soleil ne tourne pas autour de la terre, mais que la terre tourne autour du soleil, alors il faudrait procéder avec beaucoup d'attention pour expliquer les écritures qui semblent contraires. Et il faudrait plutôt dire que nous ne les comprenons pas, plutôt que dire que serait faux ce qui est démontré.
Donc là, il y a un respect de la science qui est quand même très intéressant et qui montre qu'en fait, on est sur des plans différents.
Oui, le plan, ce qu'on avait déjà dit plus haut, de l'origine et du commencement, qui sont des choses différentes.
Donc, derrière cela, il y a à ne pas mélanger ces plans. Et pourtant, il y a aussi une réflexion contemporaine qui se fait autour de la différenciation sexuelle et qui conteste d'une certaine manière ce fait de créature, alors que la bipartition homme-femme existe réellement.
Oui, et ça, c'est toute la contestation qui revient sur cette différenciation sexuelle qui remonte aux origines de la Bible et qui, dès les récits de la création, dit bien qu'on ne peut pas être homme sans être soit un homme, soit une femme.
Qui évoque aussi le fait que cette sexualité humaine n'est pas simplement le prolongement de la sexualité animale.
Oui, parce que cette sexualité humaine ouvre à la réalité de la relation d'amour, qui est spécifiquement un phénomène humain, qu'on retrouve dans l'interdit de l'inceste, par exemple, et de cette expression qui marque le passage de la nature à la culture. Et c'est ça,
l'humanisation réelle. Et puis qui, pour les chrétiens, est l'image de Dieu. Le réseau de relations des personnes divines dans leur altérité est à mettre en parallèle avec la relation à l'intérieur des couples et aussi aux relations humaines, où on respecte les hommes tels qu'ils sont dans leurs différences, ce que l'on va développer dans la deuxième partie de l'émission.
Quand il était encore bébé, Xavier, voyant sa mère qui pouponnait son cadet, voulant tout faire comme maman, tendrement, longeait et berçait son ourson, sans façon. Vous voyez, qu'il était bien disposé. Mais les amis, mais les parents, apprenant, qu'il était tendre et maternel, plus rebelle, de tomber à bras raccourcis, sans merci, sur la pauvre maman tranquille, malhabile. Vous voyez, qu'elle n'y avait pas pensé. Ils lui prédirent avec terreur, quelle horreur, qu'il allait être, paraît-il, pas viril, dire qu'il fallait mettre aussitôt une auto dans les mains de ce petit mâle anormal. Vous voyez à quoi on peut échapper. Mon Xavier n'a pas protesté, a pleuré, a enroulé vaille que vaille la ferraille dans le mouchoir de sa maman tendrement, puis il a fait faire dodo à l'auto. S'inquiéter. Je dois pourtant vous rassurer sur Xavier. Il a passé sans avanie son permis. Ses sentiments pour son auto, son normaux, tous ne peuvent pas en dire autant. Bien souvent, vous voyez, tout finit par s'arranger.
Dans ce tissu de relations, Paul nous interpelle en disant, eh bien, je cite, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Vous n'êtes tous qu'un en Jésus-Christ. » Donc là, il abolit les discriminations. On a l'impression que tout est unifié, assimilé l'un à l'autre. Et pourtant, en même temps, on tient homme, femme, différents sexuels, respect dû à chacun. Et dans cette réflexion contemporaine, il y a une part importante donnée à l'homosexualité.
Oui, parce que de nos jours, dans nos sociétés occidentales, l'homosexualité est quelque chose qui se revendique, qui se manifeste dans la volonté d'hommes et femmes homosexuels de se voir reconnus et de voir reconnus ce qu'ils appellent leurs droits.
Alors, on peut dire que de fait, sur un plan chrétien, l'homophobie est condamnée, et puis qu'il y a à avoir un respect des différences et une reconnaissance de l'humanité de chacun, que ce soit la race, la couleur, l'orientation sexuelle, le handicap, l'âge, et que chacun, au regard de Dieu, trouve un sens à sa vie. Et donc là, en tout cas, chacun a droit au bonheur de vivre, et il convient de respecter chacun. Ce qui nous amène aussi à une réflexion contemporaine importante autour de la réflexion sur le genre.
Alors cette réflexion, elle s'articule sur le fait que certains distinguent le sexe de ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire ce sexe tel qu'il est vécu.
Donc il y a effectivement la bipartition biologique, c'est un fait, mais l'humanisation de la sexualité fait qu'il y a des connotations culturelles, psychologiques. Une auto dans les mains de ce petit mal anormal. Que cela a créé l'identité sexuelle de la personne. Et dans la question du genre, eh bien on vous dit carrément, on ne naît pas homme ou femme, mais on le devient.
Oui, ça veut dire que c'est la société qui va créer des comportements qui sont des comportements masculins ou féminins.
Donc c'est l'évolution de la société qui répartit les uns et les autres suivant des critères qui seraient sans relation avec la réalité sexuée de la personne. À quoi c'est dû ? Il y a peut-être là une revendication féministe.
Oui, il est vrai que les femmes ont longtemps et sont encore dans beaucoup de pays, l'objet de discrimination, de situations de rabaissement dans la société.
Donc l'inégalité qui entraîne des souffrances, les stéréotypes qui effectivement aboutissent à considérer moins l'un que l'autre, ont créé ces revendications féministes. Mais entre les revendications féministes qui demandent qu'il y ait la même considération pour l'homme et pour la femme, dans leurs différences même, la question du genre, l'idéologie du genre, aboutit à des revendications un peu extrêmes.
Oui, c'est l'idée qu'il n'y a pas de différence du tout. Il ne faut pas considérer qu'il y ait des différences entre un homme et une femme.
Donc au jardin d'enfants, on ne va plus donner des autos aux petits garçons, mais on va en donner des autos aux petites filles et des poupées aux petits garçons, et puis on va leur dire qu'ils sont des êtres humains
et non pas
avant, et non pas des petits garçons ou des petites filles.
Oui. Bon.
Bon, cet aspect-là est un peu amusant, mais cela recouvre aussi une idéologie qui nie en fait toute différence. Et si on nie cette différence fondamentale, cela peut nous amener à nier aussi toutes les autres différences qui sont liées à des cultures, qui sont liées à des civilisations. Et ça, c'est peut-être grave. Donc, la dénégation de la réalité entraîne un matérialisme et une négation de l'homme à respecter en tant qu'homme tel qu'il est. Ce qui nous amène à poser avec Bernard Sesbouy la question de l'homme. Et il la pose de façon un peu amusante en disant « Est-ce que l'homme est tzigane dans la nature ou bien sommet de la création ?»
Oui, alors quand il dit tzigane de la nature, ça veut dire un peu marginal de la nature. Hein. Il est à part, dans la nature, mais pas seulement, et en dehors.
Alors que pour l'anthropologie chrétienne, même en tenant compte de cette réflexion athée moderne basée sur la science ou qui est un fait, la condition humaine s'inscrit dans un certain nombre de différences.
Oui, alors, Bernard Sesbouy indique ici trois grandes différences. La différence avec Dieu, la différence avec l'animal et la différence sexuelle entre l'homme et la femme, qui sont les caractéristiques de l'homme dans cette anthropologie chrétienne.
Eh bien, le temps s'écoule et notre émission s'achève. Donc, je rappelle, pour aller réfléchir, aller voir ce livre « L'homme merveille de Dieu » de Bernard Sesbouy. Et à tous, je dis bonne semaine, au revoir.